Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Frédéric Pajac, qui nous a laissé de très beaux livres aux éditions Noir sur Blanc, qu'il illustre d'ailleurs lui-même, Frédéric Pajac, a écrit un petit livre qui s'appelle Nietzsche au piano, que je vous conseille. Dans ce petit livre, il explique que Nietzsche, par ailleurs, ne cesse et ne cessera jamais d'être poète, accumulant vers rimé et vers libre. Toutefois, nous dit Frédéric Pajac, il reproche au poète ce qu'il reproche à la religion. Il donne des apaisements provisoires, et parce qu'ils allègent la vie, ils détournent leur regard du présent ou le font apparaître dans une lumière chatoyante. Nietzsche donc se défie de tout ce qui étourdit sous couvert de vouloir guérir non seulement les stupéfiants de toutes sortes, il faudrait insister aujourd'hui puisque ces stupéfiants nous ont complètement envahis, et sont en train de véritablement pourrir les sociétés, mais encore la religion et l'art qui s'apparentent aux stupéfiants. C'est Nietzsche qui le dit. Ces derniers sont des échappatoires destinés à consoler ou guérir les douleurs morales. Il perçoit très lucidement où va l'art de son temps, qui sert à étourdir, à enivrer, à anesthésier, à amener la conscience d'une manière ou d'une autre à l'inconscience. Voilà. Alors, en lisant ceci, et en lisant ce que disent les poètes, et vous allez le voir tout de suite par l'exemple des lectures que vous allez écouter, on s'aperçoit que la résistance à ceux dont parle Nietzsche, dont il dénonce la dangerosité, en disant que, en définitive, l'art va servir à nous étourdir, à nous enivrer, à nous anesthésier, de manière à amener notre conscience, d'une façon ou d'une autre, par n'importe quel moyen, à l'inconscience, c'est-à-dire cet état dans lequel l'homme devient d'une passivité totale et, en définitive, n'est là que qu'on mettait le public romain au jeu du cirque. Eh bien, non. Ceux qui vont résister à cela, ceux qui vont nous proposer de ne plus être dans cette inconscience qui nous anesthésie, qui nous enivre, qui nous étourdit, eh bien, ce sont les poètes. Et les poètes, les grands poètes, ne disent rien d'autre que la poésie, et le contraire de ça, c'est la résistance à ça. Alors, je vais en choisir deux, avant de laisser la place aux actualités, entre guillemets, de la poésie, qui sont très, très, très abondantes. Le premier, ça va être Charles Julliez. Charles Julliez, qui nous a quittés il y a peu, grand poète. Et je vous invite à lire dans la collection Poésie Gallimard, dans cette collection mythique des petits livres blancs, les œuvres de Charles Julliez, avec une préface, une excellente préface de Jean-Pierre Siméon. Jean-Pierre Siméon qui sera l'autre poète dont je vais parler, et qui, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et qui seront à Toulouse, qui auront la chance d'être à Toulouse demain, Jean-Pierre Siméon sera à la librairie Ombre Blanche, donc le mercredi 20, à 18h. Écoutez Charles Julliez. Alors, Charles Julliez, j'ai choisi un petit livre, non pas des poèmes, Il y a des poèmes, bien sûr, dans ce petit livre, mais très peu. C'est surtout de la prose, et c'est une prose qui est une prose qui est une prose qu'on a tendance à abandonner, qui a été un genre littéraire vraiment très important autrefois. C'est la prose épistolaire. Ce sont des lettres. Il écrit quatre lettres, donc quatre lettres correspondant à quatre saisons. Il les adresse à une amie lointaine qui est au Canada. Et alors, par exemple, il dit « Jour de printemps, il marche dans les vignes, les bois, alors qu'un poème se compose dans sa tête. » Et ce texte parle de l'avidité de vivre. L'avidité de vivre. En définitive, on va voir aussi que chez Jean-Pierre Siméon, eh bien, il ne dit rien d'autre que cette avidité de vivre, et de vivre de l'attente, l'attente de ce qu'aucun mot ne saurait nommer. D'ailleurs, en relisant Charles Julliez et en venant de lire de Jean-Pierre Siméon son dernier ouvrage « Avenir », suivi de Le peintre au coquelicot, ses poèmes parus dans la collection NRF Gallimard, non pas la collection de poche, mais la collection blanche, je me suis dit qu'il y avait là des interférences et même des similitudes de pensée, des similitudes de posture qui sont vraiment très troublantes et qui prouvent que vraiment il y a une espèce de finalité commune quand même chez les poètes. Alors après il y a l'été, nuit d'un été torride, naguère. Dans ce récit qu'il fait, dans ses lettres, un enfant s'était enfoncé dans la forêt à la recherche de trois êtres, l'arbre et l'être immense. Il ne les avait pas trouvés, mais il avait vécu quelques minutes inoubliables près d'une source. Autre parcours, c'est celui de l'aventure intérieure, avec ses aléas, ses angoisses, ses découvertes, et instamment espéré, ardemment attendu, cette seconde naissance qui permet enfin de consentir à la vie. Voilà. L'aventure intérieure. La poésie ne dit certainement pas autre chose que cette aventure intérieure. Journée d'automne et de balade sur les collines, dans la douce et déclinante lumière de la saison préférée, elle fait songer à un autre automne. Quel automne ? Eh bien, celui d'une existence, celui qui éclaire et enrichit la plénitude de la maturité. Après-midi d'hiver, la neige, les oiseaux, le profond silence, une totale passivité, le plus enfoui effleure et la main note. Des instants d'abandon, de lente dérive, c'est une parole nue, la parole de Charles Julliez, celle qui secrète le murmure de l'intime. Écoutons-le. Brûlure de l'attente. Impatience à m'approcher de ce qui, pourtant, je le sais, ne se livre que par intermittence. Crainte de la déception qui peut s'en suivre. En dépit de cette brûlure, je suis paisible et ne perds pas de vue qu'aujourd'hui, j'aurai la force de patienter. Je sais maintenant que l'angoisse n'est plus de mise. Que je surmonterai la déception, si elle survient, que je n'irai pas me figurer que tout est perdu si rien ne m'est accordé. De même, je ne me laisse plus arrêter par cette évidence, douloureuse à admettre, que les instruments de préhension dont je dispose laisseront échapper la plus grande part de ce qui va sourdre et dénatureront le peu qu'ils parviendront à saisir. Je ne suis plus en conflit avec les conditions qui nous sont faites. J'ai enfin compris que nous ne gagnons rien à nous rebeller, que la vie ne se laisse pas forcer, qu'elle ne s'offre qu'aux humbles, à ceux qui ne refusent pas de se soumettre. Le silence est promesse de vie, et c'est pourquoi, à prendre conscience de celui qui règne ici, je me sens gagné par un profond bien-être, une confiance, le pressentiment que des heures pleines me seront accordées. De brusques embardées se produisent Et quelle fantastique distance on se trouve parcourir à l'intérieur de soi en quelques secondes. Mystère de cet inconnu qui se présente et dont les changeants visages me conduisent de surprise en émerveillement. J'étais parti pour vous dire tout autre chose et je me suis laissé dériver. Et si ma lettre manque de cohérence, je me garderai de le déplorer. J'ai trop souvent voulu introduire un ordre, une clarté et une logique en des parages qui les excluent. D'innombrables fois, j'ai créé un ordre artificiel, voulu rendre clair ce qui ne saurait l'être, imposer une logique à ce qui ne pouvait la tolérer. Stupide exigence de la pensée. Pour leur obéir, j'ai déréglé mes perceptions, falsifié ce que j'en recevais. Je ne veux plus commettre pareilles erreurs. Désormais, un seul objectif, avancer en moi comme un mineur dans son filon, m'employer à voir ce qui est, puis le traduire avec un maximum de précision et de simplicité en veillant à ne pas trop le déformer. Voilà, on va s'arrêter là. Il dit, quel est, en définitive, de tous ces errements un peu, quelle va être la finalité de son écriture? Donc il a un objectif, avancer en moi, comme un mineur, il dit, dans son filon, m'employer à voir ce qui est, donc le regard, à voir ce qui est, c'est-à-dire la lucidité. Voir le monde tel qu'il est, puis le traduire avec un maximum de précision et de simplicité, en veillant à ne pas trop le déformer. C'est quoi? C'est une œuvre de témoin. C'est-à-dire que Charles Julliez, dans son œuvre, se dit, bon ben maintenant, moi, je vais dire le monde, et je vais être le témoin du monde. Mais ce sera un témoin surtout de la contemplation du monde. On va retrouver Joël Vernet, le contemplateur, le journal du contemplateur, on retrouve la même chose. Il va dire la beauté du monde. Et pour dire cette beauté du monde, il faut effectivement, un petit peu, renoncer à cette part d'hubris qu'ont les artistes. Il y en a même qui n'ont que ça, hein, des artistes entraînés par une mégalomanie qui les entraîne en fait dans une large paranoïa, ça existe. Et lui, il dit, je ne suis plus en conflit avec les conditions qui nous sont faites. Je ne suis plus en conflit avec les conditions qui nous sont faites. J'ai enfin compris que nous ne gagnions rien à nous rebeller. Que la vie ne se laisse pas forcer, qu'elle ne souffre qu'aux humbles, à ceux qui ne refusent pas de se soumettre. Oh. Alors là, un artiste qui dit, ben je vais me soumettre, il y a là quelque chose qui paraît quand même un peu étrange. Alors voyons, il dit ça, Charles Julliez, dans La lumière des saisons, qui a paru aux éditions P.O.L. Alors voyons ce que dit au contraire son ami Jean-Pierre Siméon. Et Jean-Pierre Siméon, écoutons-le dans son dernier livre, À venir, suivi de Le peintre Coquelicot, poème, il dit ceci. Rebelles nous serons, comme un matin qui piétine la nuit alentour de la vie, ce n'est plus la vie, nous serons chez nous, au cœur de chaque seconde. Nous prenons absurdement le temps pour le temps. Il doit être un lieu. Si nous n'habitons pas notre souffle, nous sommes un feuillage sans tronc. Nos gestes, nos pensées, nos désirs, tout desséché. Nos paroles, des feuilles mortes, à l'entour de la vie. Ce n'est pas la vie. La vie demande l'éternité dans la seconde. Là où le dedans et le dehors s'épousent, là où tout en nous se concentre et s'épouse, l'air et la lumière, le bruit et le silence, le vol de l'oiseau et le poids de la pierre, l'univers et sa question. Vivre ne peut être qu'habiter la question, comme font les amants dans leur étreinte, comme fait le dormeur quand le jour teinte à sa fenêtre. Toute réponse nous dépossède de la vie. Rebelles, nous serons à toute réponse. Il n'y a pas de différence entre la vie et la question. Il n'y a pas de différence entre un poème et une poignée de main, dit Paul Celan. Le poème est une question. La poignée de main est une question. La vie est une poignée de main. Voilà. Alors, il y a cette phrase, ce vers de Paul Celan, vers magnifique, hein, qui est multiples fois cité, bien sûr, et dont tous les lecteurs de poésie devraient s'imprégner. Entre un poème et une poignée de main, eh bien, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le poème doit être un salut à l'autre, doit être un geste d'amour vis-à-vis de l'autre. Voilà. Mais il y a là, alors, une différence fondamentale, puisque pour Charles Julliet, arriver à cette posture de pouvoir contempler le monde et dire le monde tel qu'il est, avec lucidité, etc., c'est quand même se soumettre. Alors, c'est pas se soumettre aux ordres, qu'il n'y ait pas de contresens. Je pense que c'est se soumettre aussi à cette ce que demande, ce qu'exige de pouvoir écrire, je dirais, en toute vérité, sa poésie. Hein. J'ai enfin compris que nous ne gagnons rien à nous rebeller, que la vie ne se laisse pas forcer, qu'elle ne s'offre qu'aux humbles, à ceux qui ne refusent pas de se soumettre. Alors, ce sont les humbles qui vont pouvoir dire la vie. Et ils vont pouvoir dire la vie, justement, parce que ils ne sont pas dans le détruit, en quelque sorte, par ce combat de la rébellion. Vous voyez, les deux. Mais je crois que l'un et l'autre, qui paraissent contradictoires, là, quand on lit Charles Julliet, quand on lit après, bon, la plupart des poètes qui se disent, qui revendiquent la rébellion, la résistance, hein, alors là, la résistance est très à la mode, maintenant, bon, on la met à toutes les sauces. Mais s'ils cherchaient la même chose, ils cherchent à atteindre un état de plénitude. Lui, cet état de plénitude, eh bien, il l'a trouvé dans l'humilité. L'humilité. Il ne s'embarrasse pas de ces combats dont il sait que, bon, en définitive, à quoi ça va les mener, ces combats. Mais ça ne va pas l'empêcher de regarder le monde tel qu'il est et de dire le monde tel qu'il est. Et c'est ce que fait, en définitive, exactement, quand on lit « Avenir », suivi de le peintre Coquelicot, c'est ce que fait Jean-Pierre Siméon, qui regarde le monde et qui dit, en définitive, le poète, mais il a tout sous les yeux, il suffit qu'il regarde un arbre, un brin d'herbe, une touffe d'herbe, il dit, il y a tout là dans une touffe d'herbe. Et tout cela, bien entendu, c'est promesse de vie, comme nous disent l'un et l'autre. Charles Julliet, donc, je voulais vous lire ces quelques passages et vous dire aussi que quelquefois les poètes, en disant des choses qui paraissent contradictoires, en définitive se rejoignent. C'est là peut-être aussi un des miracles de la poésie. Charles Julliet, donc, dont nous reparlerons, mais je vous invite à lire ce petit ouvrage « Dans la lumière des saisons », donc aux éditions POL, qui vous coûtera simplement la somme de 9 euros. Hein, c'est de la prose, ce sont des lettres, mais quelle prose, quelle prose. Et puis il y a là cette... je vais vous lire d'ailleurs quelques poèmes aussi. Il dit, il envoie des poèmes donc dans ses lettres, et il dit à sa destinataire, à cette dame pour laquelle à laquelle il s'adresse, il dit: vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Voici ses poèmes. Pour ne pas meurtrir ce silence où germent mes mots, où que je sois, je parle bas. Toute intention, tout vouloir empêche l'inconnu de se révéler. Il est tant de refuges, tant de manières de fuir, d'éluder, de déserter la vie. Ceux qui haïssent leur moi, mais ne peuvent s'en libérer. Vie sauvage, tumultueuse, imprévisible, par peur qu'elle nous entraîne là où nous redoutons d'aller, nous nous empêchons de vivre. J'ai trop voulu ne pas vouloir. Ce que je vis n'est pleinement vécu que si je le mets en mots. Il faut parfois toute une existence pour parcourir le chemin qui mène de la peur et l'angoisse au consentement à soi-même, à l'adhésion à la vie. Sache renoncer à ce profit qui s'attache au renoncement. L'amour, l'amour, ce mot traîne sur bien des lèvres, mais qui est assez grand pour vivre ce qu'il désigne? À l'instar de ton œil, ta fin est plus claire, et elle voit mieux ce qui pourrait l'assouvir. La sève qui irrigue mon tronc et mes branches, elle provient maintenant de mes racines. Boire, boire à pleine bouche, et sentir s'aiguiser ma soif, la liberté et l'amour, leur loi des reins. Il dit dans ce poème: j'ai trop voulu ne pas vouloir. Souvenez-vous de ce que j'ai lu tout à l'heure, où il dit: il faut se soumettre. Ne perdons pas de temps, soyons dans l'humilité. Mais il ajoute, et ça c'est peut-être l'explication absolue de ce qu'est un poète, de ce qu'est cette nécessité de faire surgir le poème par celui qui le ressent. Ce que je vis, dit-il, n'est pleinement vécu que si je le mets en mots. Et je crois qu'il y a tout dans ces trois vers. Ce que je vis n'est pleinement vécu que si je le mets en mots. Je crois qu'il y a là tout Charles Julliez. Toute sa vie, en définitive, ça a été ça. Une espèce, après ce qu'il a vécu, l'enfant de troupe, l'année de l'éveil, hein, qui a été un best-seller, où il raconte ça, ses amours avec la femme de son correspondant, quand il était tout jeune, enfant de troupe. Et ensuite, ce repli sur lui, dans les années, fin des années 60, des années 70, on a connu Charles Julliez. C'était quelqu'un qui était, on dirait, très très introverti, replié sur lui. Ses premières œuvres, Georges Catalot pour en parler, notre poète ici de la région, qui, comme moi, a lu ses premiers textes sur des stencils, hein, à l'époque, petit tirage, vraiment. Ce que je vis n'est pleinement vécu que si je le mets en mots. Donc sortir de cette angoisse qui, en définitive, le tétanisait par il faut dire les choses comme elles sont, par instant, eh bien, c'était cette nécessité absolue de ne pouvoir en définitive revivre que s'il couchait sur le papier ce qu'il était en train de vivre. Voilà. Et ça donnait une œuvre qui est une œuvre incandescente, qui est une œuvre qui concerne l'universel, qui concerne tout le monde, dont tout le monde peut se retrouver dans les écrits, dans les poèmes de Charles Julliez. Et c'est en définitive ce que je dis là, ce que je vis n'est pleinement vécu que si je le mets en mots. C'est ce que disent la plupart des poètes, et en tout cas, c'est ce que dit Jean-Pierre Siméon aussi dans Avenir, suivi de le peintre au coquelicot. Alors, dans la dernière demi-heure qui nous est impartie, je voudrais rendre hommage à un éditeur, il faut le faire. Des éditeurs, vous savez, là, il y a beaucoup de livres de poésie. Je sais que quand je dis ça, les gens ricanent un peu en se disant « Mais non, la poésie meurt. » Mais non, elle ne meurt pas, la poésie. Il y a des poètes, mais il y a des éditeurs, des gens courageux ou des gens qui vraiment mettent leur vie à faire connaître la poésie. On n'ira jamais assez de bien de ces éditeurs. Je pense à Pierre Ménard, par exemple, dont nous avons parlé il y a quelques semaines avec Yves Leclerc. Et aujourd'hui, je vais parler des éditions. Alors, ce sont des éditions RS. Et les éditions RS, Cocorico, moi qui suis chauvin comme ce n'est pas permis, avec mon Occitanie, eh bien, je suis très fier de dire que les éditions RS sont des éditions toulousaines. Et ces éditions RS, alors, on les connaît essentiellement pour les ouvrages de psychologie, de psychanalyse. Mais ils ont créé une collection, c'est Daniel Faugeras, c'est Pascal Junot qui s'en occupe de ça, saluons-les, ces dames, une collection Poépsie, qui, donc, depuis des années, nous régale de petits recueils. Alors, en plus, ces recueils, ce sont des petits livres d'art, donc ça tient dans la main. Hein, c'est un format, généralement, donc il y a des exceptions, mais c'est rare. Mais c'est donc petit format, donc livre de poche, c'est parfait, parce que quand on a beaucoup de livres, effectivement, ça prend moins de place dans la bibliothèque. Et puis, alors, il y a un effort considérable dans la mise en page, dans l'illustration. Enfin, ce sont vraiment, et c'est bien là que l'on voit aussi que ce sont des dames, hein. Ce sont des perfectionnistes dans la forme. La collection Poépsie. Alors, elle nous régale beaucoup de traductions. Et il y a un critère qui est généralement d'ailleurs toujours suivi, à quelques exceptions près, qui est le critère d'avoir choisi des textes brefs, des poèmes courts. Et donc, ça caractérise alors ces éditions qui ont une forte personnalité du fait d'abord de leur finition qui en font de véritables livres d'artistes à la portée des bourses ordinaires, puisque bon, les ouvrages valent 15 euros. Des très très beaux livres, donc livres à offrir, hein, ça fait un très beau cadeau là, c'est vraiment très beau. Ce sont des ouvrages d'art, hein, quasiment chacun, chaque parution. Et puis aussi des textes courts. Voilà. Elle est très attachée à ça, Daniel Faugeras, des textes courts. Alors, dans ces dernières publications, je vais en citer trois. Je vais citer Shams Langaroudi. Alors, c'est une Shams Langaroudi, ça s'écrit Langaroudi, Shams Langaroudi, c'est, nous dit l'éditeur, l'une des figures les plus importantes de la littérature iranienne contemporaine. Alors, ce poète, il est né en 1950, au bord de la mer Caspienne, et il vit actuellement à Téhéran. Outre de la poésie, il aurait publié 15 recueils entre 1976 et 2021. Shams Langaroudi a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire de la poésie moderne en Iran, des monographies consacrées à plusieurs écrivains et même un roman. Alors c'est bien d'avoir choisi un poète iranien, par les temps qui courent, hein, parce que bon, l'Iran connaît une situation où, certainement pas très confortable d'être poète en Iran, mais c'est là des paradoxes. Et puis les poètes, ils sont des gens qui se faufilent partout. Leur poésie finit toujours quand même, si elle est de qualité, finit toujours par émerger. Ces poèmes sont traduits du persan par Fardire Rava, et il y a une peinture, très colorée, très chaleureuse, très chatoyante, une peinture de Valérie Buffetot. Faut-il que je me consume sans un mot, jusqu'à me perdre dans les ténèbres, jusqu'à devenir une étoile filante? Je suis une flèche ardente, envie grâce à mes cendres, avec pour seule joie de blesser les ténèbres. Voilà, vous avez un aperçu donc de ce livre de Shams Langaroudi, Les cendres de l'envol, c'est le titre, aux éditions Poepsie. J'ai fait tout ce chemin pour te voir. J'ai vu le champ labouré. J'ai vu des murs ruinés et la lune ébréchée. J'ai vu des enfants émerveillés, des herbes piétinées. J'ai vu un abri de terre, la flamme d'un soupir. J'ai vu le vent. Et toi, je ne t'ai pas vu. Alors, c'est une édition bilingue. Qu'il est difficile de vivre sans toi. Je vois les couleurs de la chambre nostalgique se lever et voler vers les arbres. C'est donc ça, le néant. Ce qu'il te reste d'existence, tu vas le passer à regarder tes feuilles flétries, haut giroflées, abandonnées, embourbées, tu te lamentes et répands ton parfum dans une maison vide. Vois comme ils sont devenus vieux, les rêves qui vont mourir sans t'avoir rencontré. À présent que la mort remonte sa pendule et cherche ton nom, laisse-moi te dire à l'oreille, même cette vie-là était belle. Face à toi, l'amour se tait, elle voudrait tant être la vie. Tout vient et va, l'amour vient et prend. Oui. Quatre vers, tout, qui constitue un vers, tout, vient et va, la mort vient et prend. Est-ce qu'on peut faire un poème plus simple, mais à la fois qui dit l'essentiel, qui dit tout, hein? Tout vient et va, la mort vient et prend. Bon, l'impermanence des choses. Ce qui existe aujourd'hui, ça va, ça vient, mais demain, ce sera parti. La mort vient et prend. Ce poème parle d'un enfant qui a oublié de naître. Ne t'inquiète pas, mon petit. Pour ce qui est de mourir, personne ne sera oublié. Il y a quelque chose là quand même d'un peu fataliste, un peu triste. Si ces poèmes suent le silence, c'est de l'absence de tes lèvres. Les mots, tels les grillons desséchés de l'été, sont vides de sens. Ils attendent des fourmis pour déverser leurs provisions d'hiver dans quelques trous obscurs, comme le chagrin qui coule dans ma poitrine silencieuse. La nostalgie est une grappe de raisin noir. Piétine-la, piétine-la, et laisse-la reposer une heure en vase clos. La tristesse enivre. On retrouve aussi cette espèce de complaisance quand même, que l'on dirait, bon, qu'on peut dire orientale sans être péjoratif, de complaisance aussi dans cette nostalgie. Je me fane et retombe sur ma feuille blanche. Venez, l'aigle royal si rare, il s'est effondré. Prenez, emportez-le chez vous, vous qui n'avez pas d'ailes pour voler. Je me fane et retombe dans vos bibliothèques comme une étoile morte depuis longtemps, et vous vous contentez de sa lumière. Alors voilà, on retrouve quand même ce qui éclaire tout homme en ce monde et ce qui est l'essence même du poème et de la poésie, c'est-à-dire la lumière. Je peux écrire des poèmes avec un cœur où courent des biches décapitées. Rendez-moi mes rêves, mon papier, mon crayon, la jeunesse de mes doigts, et dites-moi comment s'écrit mon nom dans votre prison. J'ai oublié les lettres de l'alphabet. Alors, là, on va retrouver l'inverse de la soumission dont parlait Charles Julliez, mais qui n'est pas une soumission au dictat des tyrans, loin de là. C'est une soumission à notre ego, dont parlait Charles Julliez, à notre hubris. Il faut renoncer à ça, justement. Et c'est ça, l'humilité. Et lui, quand il écrit « Je peux écrire des poèmes avec un cœur au cours des biches décapitées », c'est effectivement son acte de résistance à lui, poète. Et puis, le dernier, « La poésie, comme le pommier venu du paradis, donne des fruits interdits. » Des fruits interdits de la poésie. Donc, vous voyez, là aussi, on va retrouver cette poésie qui est œuvre de résistance. Serais-je le miroir de ma propre mort, demande-t-il. De toutes ces mers, je n'ai plus que du sel, et mes matelots sont de vieux criquets, appuyés sur leurs cannes, priant dans ce vaste temple qui est le mien. Le désespoir est une neige qui tombe lentement et réveille le feu et le silence dans le froid. Donc des mots terribles, mais en même temps, donc cet appel à la lumière et cet appel avec beaucoup de subtilité, hein, cet appel bien sûr à la résistance. Voilà, Shams Langaroudi, donc c'est l'une des figures, je vous ai dit, les plus importantes, hein, de la littérature iranienne d'aujourd'hui. Alors il a vécu dans sa jeunesse les dernières années du régime du Shah, hein, il est né en 1950 évidemment, puisque le Shah c'est 1979, il s'en va. Au moment de la révolution et dès l'avènement du nouveau régime, donc des Mollahs, hein, dont le but manifeste est de mettre en place l'homme nouveau, attention à tous ceux qui veulent mettre en place l'homme nouveau, et de réduire au silence toute représentation de l'ancien régime, Shams Langaroudi a été, comme la plupart des écrivains et des artistes, la cible de persécutions variées. Et ses poèmes, donc, que je viens de lire, un aperçu en tout cas, présentent ainsi le tableau des affres et des passions d'un jeune poète qui est confronté à des événements historiques majeurs, événements qui sont loin d'être terminés, puisqu'on y est en plein. La poésie, donc, de Shams Langaroudi, comme toute la poésie écrite en Iran depuis des siècles, c'est le révélateur de la complexité historique et politique du pays. Et la production littéraire des dernières décennies témoigne de sa vigueur. Voilà. Alors il y a là aussi un paradoxe, hein, entre ce que ce régime des mollahs, hein, et quand même la création artistique dans bien des domaines, hein, le domaine cinématographique par exemple aussi, hein, en Iran. Donc il y a là une forte contradiction, mais un fol espoir. Et espérons que, bien entendu, cette complexité de la situation politique iranienne évoluera. En tout cas, aujourd'hui, nous savons qu'elle est encore dans un des tournants. Alors, l'autre ouvrage que je vais citer, celui-là, je vais peut-être aller plus vite, parce que c'est quelqu'un un poète excessivement mondialement connu, un des grands génies de l'humanité, des grands génies, la bombe atomique du XXe siècle dans la littérature, c'est Fernando Pessoa. Alors, les éditions Poepsie publient dans cette petite collection-là, livre de poche, merveilleux livre, toujours très très agréable, ils vont publier les quatrains au goût populaire, le pot de fleurs que le peuple met à sa fenêtre de son âme. À la fenêtre de son âme, ça c'est voilà. Donc des quatrains, il y en a sur je ne sais pas combien de pages. Donc tout ce gros livre, donc ce sont des quatrains, plus de 325 pages, donc de ces poèmes de quatrains. Les cantigas de portugais sont comme bateaux voguant au large, dit-il, Fernando Pessoa, d'une âme à l'autre, sans cesse elles vont avec le risque de faire naufrage. Alors, là, je ne vais pas m'apesantir sur Pessoa. Je voudrais simplement vous signaler cet ouvrage, parce que il complète tout ce qu'on a sur Pessoa. Et puis, c'est très agréable de lire ça. Alors, c'est en bilingue, comme toujours. Donc, nos éditeurs portugais qui lisent le portugais se régaleront. Et puis, ceux qui ne lisent que le français se régaleront aussi, parce que c'est très agréable, ces quatrains. Quand dans la rue tu passes sans remarquer qui passe, toute la joie est pour toi et tout le malheur pour moi. On retrouve tout Pessoa en quatre vers. On retrouve toute cette espèce de génie permanent, génie absolu, quoi. La vie est un hôpital d'un dénuement quasi total, c'est pourquoi personne ne guérit, et la mort et le bon de sortie. Alors quand on lit ça et quand on sait qu'effectivement Fernando Pessoa, 1936, rentre dans cet hôpital à Lisbonne et qu'il dit en anglais « Je ne sais pas ce que demain sera, I don't know what tomorrow will be », c'est sa dernière parole vis-à-vis des brancardiers qu'il a mené, se faire opérer, et puis il ne s'est pas réveillé, bien sûr. Et voilà, cette prémonition du poète de génie. Et puis il parle de la saudades. La saudade, seuls les Portugais arrivent à bien la ressentir, étant donné qu'ils ont ce mot qui leur permet de dire qu'ils l'ont. Voilà, parlons du fado, hein. Alors, que dire sur Fernando Pessoa? Bon, est-ce qu'on rappelle rapidement qui est Fernando Pessoa? Bon, Fernando Pessoa, il est né donc à Lisbonne en juin 1888. Il est écrivain, il a une œuvre d'écrivain, de critique, de polémiste. Et puis il est poète, bien sûr, c'est le poète portugais d'expression trilingue, puisqu'il a écrit. Il a écrit en portugais, il a écrit en anglais, hein, et il a écrit en français aussi, hein, pas l'oublier. Il avait ce génie des langues, d'ailleurs ce génie des langues lui a permis de gagner sa vie, puisque c'est avec cette connaissance des langues qu'il tenait. Il faisait la correspondance commerciale donc d'entreprises à Lisbonne. Donc, c'est un théoricien aussi de la littérature engagée dans une époque des années 30, hein, une époque qui était troublée par la guerre et les dictatures. C'est l'inventeur inspiré de ce qu'on appelait le sensationnisme, dont ses vers mystiques et sa prose poétique ont été les principaux agents du surgissement du modernisme au Portugal. Or, tout le monde sait qu'il est mort alcoolique, hein, en 1935, le 30 novembre, exactement, 1935. Et contrairement à ce que l'on croit, il a été peu publié de son vivant. Mais alors, il a laissé derrière lui une malle. Alors, la malle mythique, hein, la malle mythique de Fernando Pessoa. Et dans cette malle, on va retrouver, écoutez bien, 25 000 textes. 25 000 textes. Alors, parmi tous ces 25 000 textes, il y a 60 feuillets manuscrits réunis dans une enveloppe étiquetée Quadras. Et ils ont été édités en portugais en 1965 sous le titre de Quadras d'Augusto Popular. Il constitue donc le volume 9 de son œuvre complète. Voilà. Et c'est donc ces Quadras que vous allez pouvoir retrouver dans cette belle édition. Alors, l'œuvre de Fernando Pessoa est tombée dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit d'auteur. Deux mots sur Fernando Pessoa, avant de finir. Celle que je prends très au sérieux, dit Fernando Pessoa, l'art et la vie, quand on jette un regard religieux sur le triste et mystérieux spectacle du monde, c'est la seule attitude possible à l'égard de son propre sens du devoir. Il faudrait méditer ça. Ça a été écrit par Fernando Pessoa dans une lettre adressée à Armando Cortés Rodríguez le 19 janvier, écoutez bien, 1915. Voilà. Quand on jette un regard religieux sur le triste et mystérieux spectacle du monde, 1915, effectivement, le spectacle était plutôt désastreux. C'est de prendre au sérieux l'art et la vie. Or, ce que je vous ai lu tout à l'heure, que ce soit Charles Julliez, que ce soit Jean-Pierre Siméon, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent la même chose, que vu ce qu'est le monde et ce qu'est l'homme, en définitive, les dégâts de l'homme, hein, regardez, hein, 1915, c'était la guerre. Regardez maintenant, il y a des guerres, guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient, guerre larvée de la Russie, guerre larvée entre, au moins une grosse guerre économique entre la Chine, les États-Unis. Enfin, bref, la violence, la haine, la détestation d'un peuple qui veut le territoire de notre peuple, les peuples qui ne s'entendent pas entre eux, comme le constatait en 1915 Fernando Pessoa, en en étant totalement désespéré, mais en ne trouvant refuge. Mais ce n'est pas vraiment un refuge, c'est plus que ça. C'est une direction qu'il indique. Parce que tous ces poètes, ils nous indiquent une direction. Ils nous disent arrêtez tout ça. Arrêtez, regardez le monde. Et nous, on ne sait que le regarder avec nos yeux de poète. Et ce que l'on voit avec nos yeux de poète, c'est que la touffe d'herbe que vous avez là, en bas de vos chaussures, c'est merveilleux. Elle est le monde entier et elles peuvent vous éblouir la journée que vous devez méditer en regardant ça et oublier peut-être. C'est ça le devoir, ce qu'il appelle le sens du devoir. C'est ça, pouvoir regarder un brin d'herbe et voir le monde entier dans un brin d'herbe et ne pas aller la fleur au fusil, aller trucider son voisin. Alors, à lire, donc, les quatrains au goût populaire, hein, dont j'ai parlé, qui avaient été publiés, donc, en 1965, au Portugal, et que les éditions Poepsi, maintenant que c'est dans le domaine public, ont pu facilement reprendre. Et c'est un très bel ouvrage, très très bel ouvrage, toujours très bien illustré, comme toujours, vraiment. Bravo Daniel Fougeras pour votre travail, bravo. Et ces impressions à la gouache de Inge Kresser. Alors c'est toujours vraiment très très beau, de véritables œuvres d'art. Et puis, dans les quelques minutes qui me restent, le dernier livre des éditions Poepsi dont je veux parler, c'est un livre d'un japonais. Alors bon, là, les japonais, ce sont quand même les maîtres du haïku. Et donc là, les éditions Poepsi, ils se régalent là, les haïku. Hein. Bon, alors il s'agit de Santoka. C'est le nom du poète Santoka, paysage d'herbe folle, donc toujours aux éditions Poepsi, aux éditions RS, Poepsi, collection Poepsi. Alors ce sont des poèmes traduits du japonais par Daniel Fougeras et Asusa Kurokawa. Kurokawa, c'est toujours en édition bilingue, hein. Là, vraiment un gros travail hein, de remettre ça en édition bilingue, etc. Et avec toujours œuvre d'art, donc toujours dans ses éditions, avait des gravures d'Anne Laure H. Blanc. Voilà. Alors, je ne suis rien d'autre, dit Santoka, que moine mendiant. On ne peut pas dire grand-chose de moi, sinon que je suis un pèlerin fou qui passe sa vie à déambuler comme les plantes aquatiques qui dérive de rive en rive. Cela peut sembler pitoyable. Pourtant, je trouve la paix dans cette vie dépouillée et tranquille. L'ataraxie, mais pas que l'ataraxie, on va retrouver encore dans cette vie dépouillée et tranquille. Enfin, c'est incroyable quand même combien tous ces poètes se ressemblent, pour ne pas dire véritablement, ils sont quasiment des jumeaux, quoi. Dans la posture, dans ce qu'ils nous disent, dépouillez-vous, soyez tranquille, regardez le monde. Alors ce que je viens de lire, ainsi se présentait dans ses journaux intimes, ce poète japonais, Santoka. Santoka, il a vécu de 1882 à 1940, et il est connu pour ses haïku, pardon, en vers libre. Donc très moderne, hein, pour l'époque. Celui dont une vie chaotique avait fait un moine mendiant s'est employé à exprimer par le haïku une, ce qu'il dit lui-même, une pure expérience, vécue selon les principes zen d'immédiateté, de simplicité, d'impermanence, alternant voyage à pied et séjour dans son ermitage, gauchuant, qui veut dire au beau milieu, il a laissé 7 recueils de haïku. Alors, Paysage d'herbe folle, qui est le recueil publié aux éditions Poésie, avec des traductions françaises, ce recueil a été écrit en 1936, et donc dans les 7 recueils de haïku de Santoka, c'est en définitive le quatrième. Donc je vais lire très vite, donc... quelques haïkus. Clair de lune, j'en profite pour puiser de l'eau. À t'attendre, je brûle comme un feu. Venu d'on ne sait où, bientôt dispersé, les feuilles, serrement de cœur. 3 vers chaque fois. Malgré la pluie hivernale, les herbes autour de moi sont belles, voyez. Des herbes, ça suffit. Dans le silence de la solitude, vivant comme un troglodyte. Pendeloquant, la neige tombée comme Psyché. La neige n'a plus rien de la neige dans la fumée des usines. Voilà, je vous invite à lire ces ouvrages, tous aux éditions Poepsi, aux éditions RS, aux collections Poepsi, des ouvrages de 15 euros, et vous aurez toutes les références sur le site de cette émission que vous pouvez réécouter sur le site, donc internet, Les poètes, tout attaché sans accent, point site. Les poètes, point site. Ainsi s'achève cette émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitane. Nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.